Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Les clubs de vente de livres par correspondance, dans les années 50, cela marchait très fort. Et, en réaction, la Chambre syndicale des libraires de France avait créé en 1953 le Club des libraires de France. La suite, eh bien la suite, c'est le sujet du documentaire qui vient, diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 novembre 2008.
Voilà.
Alors, si vous voyez, là, les livres sont classés par collection. Et l'idée fondamentale que nous avons suivie et que j'ai adoptée tout de suite de Faucheux, c'était de créer un habit qui permette de distinguer du premier coup la collection. Et en même temps, de faire une bibliothèque tout à fait homogène. Pas des livres de tous les formats comme dans l'édition courante.
Alors c'est quoi? C'est la typographie, Bernard Guerbrandt?
Les dos.
Les tranches avec une typographie différente.
Voilà. Alors là, ce sont précisément des livres qui appartiennent aux collections fiction et livres de toujours. Mais par exemple, tous ces livres gris que vous voyez, c'est les livres de la collection des livres sagesse.
Le Club des libraires de France, 1953. 1966.
Alors, il y a la première collection, c'est la collection des livres toujours.
Michel Chaffanjon, libraire à Besançon.
Et qui veut dire ce qu'ils veulent dire.
Les grands classiques.
C'est les grands classiques, mais ça peut être aussi de ce qu'on appelle des long-sellers, c'est-à-dire des livres qui se défendent tout seuls, et qui n'ont pas besoin ni de publicité de l'éditeur ou de l'auteur ou du libraire, parce qu'ils ont fait leur place. Et donc, on trouvera incontournablement le premier et auteur qui a été choisi dans la collection des livres de toujours, c'est Alain Fournier, le grand moule. Hein? Mais ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouvera le même titre et le même auteur numéro 1 de la collection de poche quand elle va sortir après. Et donc c'est assez amusant de retrouver les... Ensuite, vous avez une collection plus novatrice qui était Découverte de la Terre. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui est presque en avance sur la découverte de la géopolitique. Hein? Ensuite, une collection histoire, très, très classique, mais où il y aura là aussi, dans cette collection histoire, une volonté d'ouverture. Par exemple, vous trouverez l'histoire de la campagne française de Gaston Roupnel, qui est, je dirais, l'ouvrage clé de ce qu'on peut appeler la géographie humaine. Après, bien sûr, collection fiction, et non pas livre de toujours. Et là, je vous ai amené sous les yeux le numéro 1, qui a été, bien sûr, Henri Troya, Les semailles et les moissons, avec une préface qui refait un petit peu la position d'André Mauroy.
La couleur a une importance aussi, Bernard Guerbrandt.
Ben oui,
parce que les gris, vous dites, c'est la collection sagesse, et puis on voit que c'est assez coloré. Il y a aussi des couvertures jaunes, rouges, vertes, roses,
oui,
qui les correspondent
couvertures
un petit peu.
Des livres de sagesse, c'est plus important. Les livres de toujours, pardon, les plus importants, vous voyez, il y a beaucoup de rouge, de pourpre. Les contes d'Andersen sont mauves. Et la matière des couvertures est très importante aussi, parce qu'on cherchait à utiliser tous les types de toiles. Le plus important, c'est les toiles. Et je vais vous montrer des réalisations.
Passé l'embellie économique de la Libération, le commerce du livre se trouve confronté aux mêmes difficultés que le reste de l'industrie. Alors que dès 1946, l'édition française retrouve son niveau d'avant-guerre, 13 000 titres sont déposés, la croissance de la production annuelle cesse d'augmenter à partir de 1949. Le marché du livre est soumis jusqu'en 1956 au contingentement du papier et les libraires attribuent la mévente du livre au fait que la consommation se concentre avant tout sur les produits de première nécessité. En 1950, on comptabilise environ 6500 commerces dont l'activité dominante est la vente d'ouvrages. C'est dans ce contexte de crise que les clubs de livres, inspirés par le modèle américain, se développent. Le Club français du livre, créé en 1946, rencontre un succès immédiat. en proposant des ouvrages reliés, dont la typographie est révolutionnaire, à une clientèle fidélisée qui reçoit désormais à domicile les titres commandés. D'autres clubs voient également le jour, comme le club du livre du mois ou celui fondé par les éditeurs, le club du meilleur livre. Face à cette concurrence, les libraires dénoncent ces entreprises hybrides qui ne sont ni éditrices ni libraires, tout en étant les deux à la fois. En mai 1953, André Sabot, associé au libraire de la place Clichy, François Gaillot, annonce la création du Club des libraires de France devant la Chambre syndicale des libraires. Les ouvrages édités par ce club vont être ainsi distribués exclusivement à ses actionnaires libraires et vendus par leurs soins. La direction du club reste aux mains des commerçants adhérents dont le réseau va dès le début couvrir toute la France. Durant un peu plus de 10 ans, Bernard Gerbrandt, fondateur de la librairie-galerie La Une, constitue ainsi, avec l'aide d'autres libraires, un catalogue de 400 titres de qualité servi par la réalisation graphique de Pierre Faucheux. Monsieur et Madame Leguet, libraires à Chartres et membres du Club des libraires, se souviennent du succès immédiat de leur commerce à la Libération.
Alors la première journée où nous avons ouvert, c'était le 20 septembre 1947. On avait quelques livres, on ne trouvait pas de livres, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien. Alors, comme mon mari avait donc une connaissance quand même un peu des éditeurs, il avait récupéré, et entre autres, on avait L'art culinaire de Pellaprat, chez Flammarion, à un exemplaire. Et tout ce que nous avions, nous l'avons vendu dans la journée, parce que les gens, pendant la guerre, on ne pouvait pas acheter des livres ou que des vieux fonds. Donc une ancienne librairie qui avait un fonds pouvait vendre quelque chose, mais nous, on n'avait rien, on n'avait pas de fonds. Ce qui fait qu'on a tout vendu et on s'est regardé, on était contents parce qu'on s'était fait un petit peu d'argent, mais on s'est regardé, et mon mari m'a dit, mais comment je vais faire? Alors maintenant, il faut que je remonte à Paris. Alors il est remonté à Paris et puis petit à petit, ben voilà. Alors, vous avez du mal à imaginer, mais il n'y avait plus rien. Il fallait repartir à zéro. Ça a été notre chance. Ça a été la chance de tous les libraires qui se sont installés en même temps que nous. Il y en a eu quand même un certain nombre dans toutes les villes de France. Et on a vu la librairie d'une autre façon que celle du libraire. Quand il y avait une petite sonnette, on ouvrait la porte, il était derrière son bureau en tablier noir, et puis voilà, il attendait son client. Alors là, c'était plus ça du tout.
Oui, Madame Leguet, c'était déjà une librairie un peu moderne où la clientèle pouvait entrer,
sortir, regarder, s'en aller, ne pas prendre quelque chose, et on disait au revoir madame ou au revoir monsieur, parce qu'autrement vous regardez du coin de l'œil, vous ne deviez pas toucher.
Il y a deux types de libraires. Il y a le libraire traditionnel qui était un commerçant qui est généralement bien installé dans un quartier ou dans une ville, et qui diffuse ce que les éditeurs produisent avec un lien avec l'éditeur qui est le représentant.
Bernard Gerbrandt, libraire à Saint-Germain-des-Prés.
Et il y a un jeune libraire qui cherche à s'installer avec l'autorisation du syndicat, qui à cette époque était très puissant, et de manière générale, et qui cherche à répondre à un besoin qui est celui de nouvelle littérature qui s'est créée. Et tous les auteurs qui ont percé la Libération, soit qu'ils eussent déjà été connus par des publications d'un fait âgé, et soit que les éditeurs aient réussi, malgré les restrictions de papier et malgré le contrôle allemand, à publier des auteurs nouveaux.
On publie, après la guerre, à peine 20 000 titres de livres par an.
Pierre Pin, libraire à Neuilly.
On en publie maintenant, je crois, 50 000 ou 60 000. Je ne sais pas si vous voyez cette inflation. Bon, alors ça, c'est une première chose. Ensuite, on avait été privé pendant la Seconde Guerre mondiale d'une quantité de livres parce que l'occupant avait interdit la publication de pratiquement toutes les traductions anglaises, hein, comme cesse de mesure. Donc il y avait un besoin de redécouvrir ou de découvrir cette littérature dont on avait été privé. Ça, ça a été très important. Ensuite, il y avait tout de même quelque chose de positif pendant cette période, c'est que privé de quantité de moyens de distraction, privé d'automobile, on avait pris l'habitude de lire, parce que c'était une des distractions qui restait à la portée de chacun.
Michel Chaffanjon, durant ce début des années 50, est-ce qu'on, dans vos souvenirs, est-ce que la librairie dans laquelle vous travaillez à Besançon, mais peut-être plus généralement les librairies, est-ce qu'il y a une crise du métier et une crise du commerce aussi de la librairie à ce moment-là, qui voit donc période où on voit justement l'apparition des clubs de livres hein, qui viennent aussi concurrencer les libraires?
Alors si vous voulez, la première crise a été celle de tout de suite après-guerre, avec la pénurie de papier, et donc par conséquent avec une difficulté de pouvoir fournir les clients. Alors que les clients, après cette période de guerre, souhaitaient avoir accès à tous les livres. Il y a eu, pendant toute cette période-là, ce qu'on pourrait appeler des faux beaux livres, où on essayait de faire quand même des livres de cadeaux, des beaux livres, mais c'était, si vous voulez, avec les moyens du bord, avec cette crise de papier. Et donc dans les années 50, on est à un moment de recomposition des projets, des propositions des éditeurs.
À cette époque-là, le public avait des notions de bibliophilie. Vous savez, on n'achetait pas un livre comme ça, on venait voir son libraire.
Henri Desmarres, libraire à Paris, dans le 7e arrondissement.
Je me souviens beaucoup, enfin les gens venaient en me disant « Écoutez, j'ai vu cette publicité, mais est-ce que vous pensez que ce livre serait bien dans ma bibliothèque ?» Vous savez, l'idée c'était la bibliothèque qui était dans le fond très représentatif des clients de l'époque. Bon, à partir de 55-60, l'esprit a changé. On ne cherchait plus un livre, un livre bien mis, bien soudé. Souvent d'ailleurs, les clients avaient lu un livre et revenaient le lendemain ou le surlendemain disant « Vous ne pourriez pas me trouver une édition originale pour que je puisse le mettre dans ma bibliothèque, voyez-vous » À ce moment-là, on était plutôt vers des objets de lecture, voyez-vous, plutôt ce que vers des livres, voyez-vous. Il y a eu un peu cette notion. Et les clubs, d'ailleurs, en sont le reflet. Les clubs de livres en sont le reflet de tout cela.
Alors justement, si nous parlons de ces clubs de livres, et notamment l'un des premiers, le plus important, donc le Club français du livre.
Oui.
Vous vous souvenez de son apparition, Henri Desmarres ?
Que trop, vous savez, parce que les clients nous en parlaient beaucoup trop et on était bien gênés, vous savez, avec cette histoire du Club français. Oui, le Club français du livre est arrivé immédiatement après-guerre, c'est-à-dire en 1946. Jean-Paul L'Hôpital, qui est le fondateur de... Et c'est d'ailleurs pas du tout son nom, il s'appelait, je crois, Paul Stein, je crois. Il était allemand, il est arrivé en 1946... Et il a eu l'idée de s'entourer. Je pense qu'il avait auparavant vécu un peu aux États-Unis et il avait vu les clubs américains, si vous voulez. Il a eu cette idée de les implanter en France. Et le Club français du livre correspondait. D'abord, il avait trouvé un lien, voyez-vous. Il y avait dans tous les clubs, d'ailleurs, vous allez retrouver la même chose, un lien, une revue qui tous les mois vont vous apporter les nouveautés, vous dire pourquoi elles ont de l'intérêt, ce lien. La deuxième chose, c'est que les textes étaient de grande qualité. Le Balzac, si vous voulez, du Club français du livre, qui était fait par Ducournau, est resté tout à fait... Le Shakespeare aussi était... Voyez-vous ? Alors donc, il y avait cette idée de qualité du texte, voyez-vous, qu'on ne trouve pas toujours, peut-être, dans l'édition française de l'époque. Il y avait, à côté de cela, aussi une présentation tout à fait différente. Et ce qui était original, et alors, l'idée, si vous voulez, du Club français du livre et de l'hôpital, c'est qu'il a fait venir Faucheux, d'une part, il était architecte en réalité. Il est devenu maquettiste qu'après, il était architecte et il s'est intéressé à tout cela. Et il a fait venir aussi, l'hôpital avait fait venir Carlier. Carlier qui était un puits de science, on peut dire, et un génie de découverte des textes.
C'était au Club français du livre dans les années 50.
Pierre Faucheux.
je faisais beaucoup de livres pour eux, j'en ai fait pendant plusieurs années, et il y avait toujours deux directions d'action.
Radioscopie, 27 décembre 1978.
Une direction coup de poing, une direction surprise. Les lecteurs, membres du Club français du livre, ne savaient jamais ce qu'ils allaient recevoir. Jamais. Ils avaient la liste des titres, et la photographie des livres n'était montrée que le mois d'après. Donc quand ils passaient commande, ils ne voyaient pas ce qu'ils achetaient. Bon. Mais le travail que je faisais à l'époque avec toute l'équipe là-bas consistait à créer l'effet de surprise le plus libre. C'est-à-dire qu'au moment où on fait trois hommes dans un bateau, au moment où on fait... combien j'en ai fait, cher ami, 225, alors les titres m'échappent. Où l'on fait, par exemple, l'universalité de la langue française, au moment où l'on fait les contes de Stevenson, etc., automatiquement, on n'écrit pas Stevenson comme Rivarol, on n'écrit pas Rivarol comme on écrit Swift. C'est pas possible.
Le Club français du livre, pour nous autres libraires, nous chauffait singulièrement les oreilles. Parce
Henri
que les clients nous parlaient sans arrêt. « Ah, vous savez, j'ai acheté un tel livre au Club français du livre. C'est bien, pourquoi vous n'en avez pas des semblables et tout ?» Bon, on était démunis, on n'avait absolument rien à dire. Alors, ils nous ennuyaient, nous, libraires, mais ils ennuyaient aussi les éditeurs.
Alors, pourquoi ils ennuyaient les éditeurs
hein? Ben, parce qu'ils, dans le fond, c'était une concurrence, si vous voulez. Ils faisaient mieux qu'eux, et alors ça gênait. Alors, les premiers à réagir, et c'était en 1952, ça a été le club du meilleur livre, qui était un groupement, mais caché, car c'était Gallimard, Hachette et
Lafond.
Puis Lafond. Voilà, Gallimard, Hachette et Lafond, vous avez tout à fait raison. Mais ils ne voulaient pas trop le dire, parce qu'ils ne voulaient pas gêner les libraires. Alors, voyez-vous, ils faisaient ça un peu en dessous. Et ceci dit, alors, le club du meilleur livre a été génial, en ce sens qu'il a récupéré Massin. Massin qui était en pleine expression, on peut dire, de tous ses moyens, et Carlier, qui était directeur littéraire du Club français du livre. Alors, voyez-vous, ils se sont venus à tes moments le club du meilleur livre. En plus, il faut dire qu'ils avaient tout le stock Gallimard, ils avaient tous les titres Gallimard, donc c'était une mine.
Les libraires étaient jaloux parce qu'ils voyaient que les clubs arrivaient à fixer une clientèle, et à pouvoir obtenir avec elle des liens, qui étaient d'ailleurs le titre de la première revue créée par l'hôpital.
Bernard Garbrandt.
Mais à ce moment-là, on ne peut pas parler tout de suite de club au pluriel. Nous nous trouvons devant un seul club, qui est le Club français du livre, qui en fera l'être d'autres. Mais entre-temps, il y aura eu la création du Club des libraires de France, qui lui provoquera alors vraiment une espèce de d'émulation et des concurrences nombreuses.
Je me suis installé, mon épouse, en fin 53. Le club des libraires a été créé en début 53. Et alors, quand j'ai voulu en 54, donc si vous voulez, j'ai pu réagir un petit peu, ben c'était trop tard, parce que il fallait non seulement être membre syndiqué du syndicat, mais aussi faire partie de l'association du club des libraires de France. Et là, je ne pouvais plus, parce que une de mes voisines, une libraire voisine qui faisait très très bien son métier, d'ailleurs, on était déjà dépositaire. Alors, je n'ai pu l'avoir que finalement quand il a été, ben, disons, en mauvaise position.
Parce que les deux initiateurs donc, de ce fameux club des libraires, enfin, et les deux gestionnaires, hein, qui sont Gaillot et Sabot,
oui.
Bernard Garbrandt est plutôt l'âme pensante du catalogue, on va dire, catalogue éditorial. Henri Desmarres, le principe, c'est qu'ils vont vendre des actions. En fait, les libraires vont devoir investir un capital ce club. Et ces actions vont très vite être vendues.
Oui, c'est ça. Ils ont été à peu près 250 qui, dès le premier abord, ont accepté de payer, afin d'acheter une action, si vous voulez, dans la nouvelle société. Et après, il n'y en avait plus.
Il n'y en avait plus. Plus le fait, vous disiez, Henri Desmarres, que les libraires ne devaient pas se concurrencer. Vous aviez une voisine libraire qui appartenait au club, donc vous ne pouviez pas
y appartenir. C'est ça. C'est-à-dire que le principe, si vous voulez, c'était d'avoir un libraire par quartier, voyez-vous. C'était pas la peine d'en avoir beaucoup dans un coin et puis de pas en avoir l'autre. Ils avaient voulu simplement répartir. Et bon, moi, je suis mal tombé.
Et chaque libraire achetait au départ un certain nombre d'exemplaires de tous les titres ou d'un certain nombre de titres.
Michel Chaffanjon.
Et il est certain qu'au fur et à mesure qu'on a constitué la clientèle, on savait un petit peu ce que chacun privilégiait comme collection à l'intérieur du catalogue. Et donc, il y avait une volonté de quand même gérer le stock et de ne pas le faire venir trop important par rapport au métier de libraire qui sait que s'il doit vendre ce qu'il achète.
Et c'est ça, parce que le libraire s'engageait quand même.
Il s'engage. Il n'y avait pas au départ de faculté de retour et donc on devait vendre l'ensemble des exemplaires que nous avions achetés au moment de la sortie du catalogue.
Et donc vous aviez le choix quand même. C'était pas, vous n'étiez pas obligé de prendre systématiquement la dernière parution.
On avait le choix et des titres et de la quantité. Mais pour les plus grands titres de la collection, en définitive, on risquait de pêcher par manque d'ambition, c'est-à-dire d'en avoir acheté 6 alors qu'on en aurait vendu 10. Et que quand on voulait racheter, ben, les 3500 exemplaires étaient répartis dans la librairie. Alors, il y avait bien après une certaine possibilité d'échange qui passait par un courrier qui permettait de chercher l'exemplaire qu'on aurait voulu pour un très bon client si on pouvait le trouver dans une librairie de Saint-Quentin. Une librairie de chartes, et on faisait des échanges entre confrères
entre libraires
sur des titres que l'un avait trop acheté et que l'autre n'avait pas assez acheté.
Le livre que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre et fus mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut parfois se taire. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre.
Ce club des libraires de France, Pierre Pain, rencontre un véritable succès, en fait, chez les libraires de province, a priori.
Mais bien sûr, parce que à Brest, on est loin de Paris, n'est-ce pas? Et la librairie de la Cité, par exemple, pour pas la citer sans vouloir faire un jeu de mots, était intéressée. Mais c'était aussi vrai de Poitiers, avec un libraire qui s'appelait Stravinsky. C'était aussi vrai à Nice, avec un libraire qui s'appelait Rudin. Enfin, tous ces gens-là étaient regroupés autour d'une idée, qui était celle de fabriquer des livres d'une certaine qualité, qui avaient leur originalité et qui ne ressemblaient pas aux autres.
La province n'est pas du tout structurée de la même façon. On peut dire que dans les grandes villes, il y avait toujours un gros libraire. Et même dans les villes moyennes, il y avait un libraire dominant, voyez-vous. Et eux ont tout de suite été intéressés. Alors généralement, c'était des libraires papeterie, voyez-vous, qui étaient en même temps des libraires scolaires au départ, qui s'était fondé quelquefois d'ailleurs en fin 19e siècle. Oui. Et alors, on avait. C'était plus quadrillé et ils avaient trouvé en province assez facilement, voyez-vous, des adeptes pour le club.
Mais la trace du loup est perdue et le piège. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini. Vivre. Ne ferme pas trop tôt le livre.
Donc vous êtes responsable, Bernard Gerbrandt, vous êtes responsable éditorial, oui. Littéraire, hein, du club des libraires. Oui. Donc il va falloir constituer un catalogue. En fait, hein. Alors vos choix, comment sont-ils motivés? Alors vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a d'autres personnes qui vous entourent, mais c'est quand même vous qui dirigez ligne éditoriale du Club des libraires, en fait.
J'avais un comité littéraire à qui je soumettais mes propositions qu'on disputait, qui lui-même me faisait des suggestions, et il fallait au début surtout que je ménage la susceptibilité des libraires de province en éditant des best-sellers, et les best-sellers, c'était à ce moment-là pas forcément des livres nouveaux au point de vue littéraire.
Alors c'était quoi les best-sellers de l'époque, Bernard
Gerbrandt? Le grand best-seller, c'était Autant le porte-levant, vous voyez le modèle. Il y avait des romans, qui était typiquement féminin, qui plaisait typiquement aux femmes, qui constituait quand même le 60% des lecteurs, on peut le dire.
Il y avait le Grand Maulne d'Alain Fournier.
Le Grand Maulne, c'était tous les jeunes adoraient le Grand Maulne, donc ça c'est pas difficile. Mais en même temps, c'était ça ne faisait aucune objection de la part de quelques libraires que ce fût. C'était l'unanimité de Grand Maulne.
Nous n'avions pas un comité de tout à fait de lecture, puisque c'était pas tout à fait ça, mais on se réunissait pour envisager les publications du mois suivant et des mois à venir. Et chacun apportait quelques idées, suggérait, on en discutait, et finalement on décidait de retenir tel ou tel titre, ou à publier, ou à illustrer, enfin c'est comme ça. Il y avait donc tout un collectif autour du choix mensuel des titres à publier. Notre ambition était tout de même de nous intéresser à la littérature que nous pourrions appeler de qualité, n'est-ce pas ? La grande base des libraires, du Club des libraires, a été puisée dans une autre réalisation qui l'a précédée, qui s'appelait la Société des lecteurs. Et la Société des lecteurs, c'était un groupement de libraires qui s'efforçait déjà de s'intéresser, enfin qui s'intéressait à la littérature, alors la publier chez les éditeurs, et qui faisait une sélection mensuelle. Donc vous voyez, notre clientèle était déjà habituée à ce que, libraires, nous soyons des gens qui pouvaient, on ne peut pas dire étaient critiques, mais tout de même regardaient la production avec un esprit critique.
Évidemment, il s'agissait de produire des livres.
Bernard Garbrandt.
Avec des textes qui soient permettre de constituer une bibliothèque idéale, c'est-à-dire les textes les plus importants, et deuxièmement, de créer un habit qui permette de se constituer une collection équilibrée. Et il aurait pu faire, pour les gens de province, par exemple, notamment, de se faire une belle bibliothèque. Pour les jeunes, de faire une bibliothèque qui habille leur intérieur nouveau.
Et alors, l'autre idée, ça a été évidemment de faire des reliures en toile.
Henri Desmarres.
Ce qui n'existait pas à l'époque dans l'édition française. Tous les livres étaient pratiquement brochés, voyez-vous. Il y avait une recherche, il y avait une recherche dans les textes, il y avait une recherche dans la typographie, dans la mise en page, il y avait une recherche dans la reliure, et je crois que ça satisfaisait tout à fait tout un public français, voyez-vous.
Là, c'est le livre de toujours. Alors voilà, par exemple, les œuvres complètes de Radiguet, que nous avons été les premiers, grâce à Jean Cocteau, à publier. Vous voyez, les deux plats sont illustrés par à la fois l'œuvre de le portrait de Radiguet par Jean Cocteau et puis un manuscrit de Radiguet.
En couverture.
Oui, en couverture. Et on a beaucoup employé ça, notamment pour Rimbaud, de photographier carrément l'écriture de l'artiste, de l'écrivain. Puis on faisait un étui toile, quand il y avait plusieurs...
Quand il y avait en plusieurs volumes, vous faisiez un étui cartonné assorti, quoi.
Oui. Voilà, l'autre livre merveilleux de Faucheux, c'est les contes, les 55 contes d'Alphonse Allais. Alors à l'intérieur, il y a une affiche électorale, l'affiche électorale d'Alphonse Allais. Où voulais-tu ?
Vous savez, ça vous allait rechercher un document, représentatif, en tous les cas...
Un document d'époque.
D'époque, et vous le proposiez au lecteur.
C'est la typographie de Faucheux en même temps.
Ah, c'est Faucheux qui retravaillait le document.
Bien sûr.
Disons que j'étais si passionné par la création des maquettes, par les caractères, les pages, les couleurs, tel caractère est gris, tel caractère est gris foncé, tel caractère est très léger, etc., que c'est ça qui me préoccupait au premier chef. Quant au reste, j'étais concerné dans les conséquences, mais ça n'était pas un point qui me fixait.
Pierre Faucheux s'entretient avec Robert Grolier, à voix nue, 22 octobre 1990.
Et il semblerait quand même que le Club du Livre était beaucoup plus innovateur, c'est-à-dire qu'il y avait
plus de recherche dans les conceptions, que le club des libraires s'adressait à un public plus large, peut-être moins ouvert ou plus commercial, on va dire, dans un sens péjoratif. Non, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que... Dans mon souvenir, c'est un peu ça. Moi, j'étais adhérent ou deux, alors je peux vous le dire. Donc, j'ai encore des livres du Club français du livre et des livres du Club des libraires. Et j'ai l'impression que, bon, que c'était... Il y avait plus de recherche, enfin, plus d'innovation au Club français du livre. Peut-être parce qu'il était antérieur.
Ça peut avoir joué. Oui, oui. Mais il pouvait y avoir, en effet, un certain ton au Club des libraires qui donne le caractère qu'il avait, c'est-à-dire un peu retenu, vivant, mais il y avait une espèce de folie dans ce qu'on faisait au club français, une folie autorisée, qui n'appartenait pas forcément à la perspective des libraires, mais on a quand même fait des livres, j'ai fait le Queneau, j'ai fait des choses comme ça avec eux. Bon, le Queneau, c'était un livre à la fois classique et libre, mais à l'intérieur des exercices de style, c'est un livre que j'adorais, que j'aime toujours autant. Je fais des exercices de style un peu louftingue, un peu insolent et insolite. Et ça, c'était au Club des libraires. C'est difficile à classer.
La formule éditoriale du Club des libraires, c'était de développer quelque chose qui avait été plus ou moins affleuré par les autres, qui était de, quand on publiait un livre plutôt important, de développer l'appareil documentaire autour de ce livre. Non pas les préfaces, mais les images et les notices qui permettent de bien comprendre le propos de l'auteur ou de faire surgir, autant que possible, faire surgir le propos de l'auteur à ce moment de sa vie quand il a écrit le livre.
Alors, par exemple, le Grand Maulne, Bernard Gerbrandt, il y a les brouillons Grand Maulne, qui sont annotés par Isabelle Rivière. Voilà, vous proposez dans votre édition les brouillons.
Ben oui. Il fallait l'autorisation de Gallimard pour publier le Grand Maulne. Mais ensuite, quand j'ai demandé du Proust, par exemple, ça m'a été refusé. Ça m'a toujours été refusé. C'est pas question de marcher sur les...
De concurrencer Gallimard.
Gallimard, dans ce domaine, il n'y a rien à faire.
Donc vous, votre travail, Bernard Gerbrandt, il fallait que vous fassiez la demande des droits.
Oui.
Aux éditeurs, et puis c'était de chercher un peu quelque chose d'inédit.
Oui,
c'est-à-dire,
ça a été aidé par une documentaliste qui avait beaucoup de flair et qui était Simone Lamblin, et qui a fait un énorme travail.
Par exemple, si vous voulez, je vous cite un seul exemple, publication intégrale des contes d'Hoffmann.
Michel Chaffanjon.
En 4 volumes. Mais cette édition sera également la première au monde à rassembler tous les dessins d'Hoffmann reproduit en photocopie, en noir, en bistre et en pochoir en couleur. Donc effectivement, cette innovation par l'illustration, elle a un sens très profond parce qu'elle veut remettre le texte dans un univers de plaisir, de découverte, de lecture et du regard.
Et la collection fiction, Bernard Gerbrandt?
Eh ben, c'est la collection des romans dont je vous parle.
C'est les auteurs du moment, quoi. Enfin,
ben voilà, c'est les goûts du jour.
Je vois Jean Giono. Ma joie demeure.
Il est dans la collection fiction ?
Oui. Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Gentleman.
Ah bah oui, mais ça, c'est
Henri Troyat, c'est le numéro 1.
Oui.
Les semailles et les moissons.
Henri Troyat avait une clientèle, comment dirais-je, très fidèle et très importante. Henri Troyat était un romancier qui restait très, très représentatif de cette génération. Enfin, de cette génération, des générations qui se superposaient en 1945.
Il y a Perle Buck, donc il y a aussi des auteurs étrangers, bien sûr.
Ah oh, bah oui.
Mais, John Steinbeck.
Oui, j'arrivais à avoir des Américains. J'arrivais à la liste auto.
Il y a Jean Giraudoux, Romain Rolland, oui. François Mauriac.
Mais si on regarde, c'est vrai que je n'ai pas été tellement malheureux de ce que j'ai publié, parce que Graham Greene, ça tient le coup. Troyat, n'en parlons pas. Ça, c'est, évidemment, Troyat va s'enfoncer. Mais ça, oui, c'est pas de la très grande littérature, mais c'est un volume de littéraire important. Robles, au contraire, est quelqu'un qui doit survivre. C'est que, dans le choix, il fallait se rendre compte que chaque choix était un combat avec l'éditeur. L'éditeur voulait m'imposer un livre qui ne se vendait pas, et moi j'essayais d'avoir un choix qui correspondait à des raisons littéraires et non pas à des raisons de vente.
Alors, Troya s'adresse à un public varié, au point de vue romanesque pur. Il y aura aussi des collections pour aller plutôt vers les érudits ou vers les spécialités. Par exemple, collection Destin de l'art, qui en elle-même, si vous voulez, veut aussi innover. Par exemple, le tome 1, c'est Antonina Valentin El Greco. Bon, c'est pas forcément évident de commencer une collection Destin de l'art par El Greco. Et le second, c'est Les dieux des tombeaux des savants de Céram. Donc, c'est comme aussi des grands classiques. Collection théâtre, aussi bien des théâtres très antiques comme Sophocle, Eschyle, Euripide, mais aussi Musset, Maeterlinck. Collection livres de sagesse, collection très stricte avec une couverture grise, quelques lettres dorées dessus. Et le premier, on va trouver les pensées de Marc Aurèle. Donc là, ça atteint un autre public aussi, qui veulent un livre relativement exigeant en termes de lecture. Marc Aurèle, Frédéric Nietzsche, Confucius, mais qui en même temps, pour cette période des années 50, permet de reconstruire des bibliothèques sur des auteurs consacrés à la poésie, avec Brasillac ou Rimbaud. Voilà. Et plus tard, il y aura une petite collection gainée de rouge, en format à l'italienne, très allongée, et qui sera ce qui s'appellera la collection des trésors des conteurs, surtout centré sur les grands conteurs du Moyen-Âge.
Paris France Europe Actualité, 24 août 1962.
Un livre qui ne manquera pas de vous passionner et de vous faire tout à la fois rêver vient d'être publié au Club des libraires de France. C'est l'ouvrage prodigieux de Cyrano de Bergerac, L'autre monde. Cet autre monde que l'on essaie par tous les moyens de découvrir, à qui l'on tente d'arracher le secret, Cyrano de Bergerac, par la puissance de son imagination, y entraînait déjà ses contemporains du XVIIe siècle. Dans ses voyages imaginaires pour le soleil et la lune, Cyrano de Bergerac faisait preuve d'imagination certes, mais également de vues scientifiques qui parfois rejoignent celles d'aujourd'hui, à notre grande surprise. Cyrano de Bergerac, le visionnaire, à l'avant-garde des découvertes modernes. N'est-ce pas merveilleux?
Moi je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde, aux châtains, aux bruns, aux rouquins, aux filles brunes, aux femmes blondes, aux hommes des romans d'amour, aux femmes des nouvelles tristes, aux enfants des livres des mots, où l'image si bien existe. Je vends des fictions, des rêves, des histoires vraies, des reportages.
Le Club des libraires a été en même temps créé avec une revue. Une revue qui était offerte aux clients. Et dès les années 50, ce qui était quand même moderne à l'époque, on a incité la librairie de province qui s'associait au Club des libraires de France d'avoir son fichier des acheteurs de livres, d'envoyer à domicile la revue et en quelque sorte de fidéliser tout en intéressant les publics lettrés.
Alors c'est dit, vous le prenez ?
J'ai monté une revue avec l'aide d'un journaliste de combat qui était... d'abord le nom...
Maurice Barrois, qui était un vrai journaliste, lui.
Alors un journaliste, oui, que j'ai piqué à combat. C'est-à-dire que c'était une revue qui donnait... une espèce de panorama de la vie littéraire. Et à l'intérieur, il y avait un petit encart de 8 pages qui présentait les livres du club au moment de leur parution. Donc, la revue a eu une collaboration tout à fait étonnante.
Et à quoi elle devait servir, cette revue, Bernard Gerbrandt?
Eh bien, c'était à créer le lien.
Entre, donc, le libraire et le lecteur.
Et l'éditeur, c'est-à-dire nous. Ça crée le lien, et puis entre les libraires aussi, entre les libraires et leurs lecteurs. Pour un libraire, c'est intéressant de créer quelque chose, une publication que les gens viennent chercher chez eux. Ou bien, ils allaient chercher les gens pour que les gens sachent qu'ils avaient à leur disposition tel ou tel titre d'un auteur qu'ils aimaient. Le Giono, par exemple. Bon, on avait... Alors, la revue, non seulement donnait ce qui était l'annonce de, donc des livres que nous publions, mais aussi des textes inédits qui sont de gens qui sont disparus, qui sont devenus des grands journalistes comme Nourricier, des écrivains qui ont joué un grand rôle dans la littérature.
Grâce à la revue, les clients à domicile peuvent feuilleter les nouveautés qui vont sortir.
Michel Chaffonjon.
Et fréquenter un ou plusieurs libraires. Car l'avantage aussi de ce système, c'est qu'on peut acheter les livres chez tous les libraires qui sont adhérents. Et ça cumule donc aussi le nombre d'achats. Et ça n'est pas une obligation de la fidélité à un seul libraire. Et ça aussi, c'est très moderne, c'est très nouveau. Et la librairie a eu beaucoup de mal de concevoir que les plus grands lecteurs, ils sont les premiers, mes premiers clients, mais ils sont très souvent aussi le premier client de mes confrères, surtout dans une ville de province.
Voilà la collection théâtre. On parlait du théâtre de Molière, du théâtre de Racine. Et
c'est voilà. Des couvertures soyeuses un petit peu.
Mais je vous en prie.
Non, je touche.
Oui, c'est une.
C'est soyeux, blanc.
C'est soyeux, oui. C'est même, on a fait des exemplaires en cuir. Ils sont enveloppés, c'est pour ça que. Mais vous voyez, par exemple, les Fables de La Fontaine, où ça a été repris après. On a été les premiers à ressortir les bois de l'époque, chaque fable.
Les gravures.
Oui, fait. Et vous voyez comme c'est lisible. Vous voyez le corps qui a été choisi, Cordis, c'est banal, mais il est interligné de telle sorte que ce soit très très bien lu, très facile à lire.
Je pense qu'ils avaient que 250 adhérents, enfin 260, je ne sais plus exactement. Enfin, c'était 250 adhérents, simplement, qui s'y étaient intéressés. Parce que ça demandait un gros travail, finalement, voyez-vous.
Henri Desmarres.
Il fallait investir un peu d'argent pour acheter une action ou deux actions, je ne me rappelle plus. Il fallait ensuite accepter un stock qui vous arrivait de je ne sais plus combien d'ouvrages, de toute la sélection, ce qui pouvait paraître lourd. D'un petit libraire, vous savez, c'est petit. Alors, donc, c'est plutôt des libraires moyens, voyez-vous. Bon, en plus, étant donné que je vous dis que le livre club, des libraires particulièrement, parce qu'il y avait des choses de grande qualité, et ça, Gerbrandt, croyez-moi, était très attentif à ça, c'était un livre qu'il fallait vendre. Voyez-vous, il fallait s'en occuper, il fallait démontrer aux clients toute l'importance du livre, la qualité de son texte, la qualité de cette mise en page très originale, voyez-vous, qui se baladait un peu dans tous les sens, qui n'était pas du tout, on ne convainquait pas du tout un client du premier coup, vous savez, et cette reliure quand même qui était très honorable et très agréable dans une bibliothèque, voyez-vous. Il fallait en parler, c'était pas le livre que l'on mettait en pile et qui disparaissait comme cela. En plus, c'était des clients qui étaient habitués au livre, des clients qui avaient l'habitude du livre. Donc, ils aimaient bien en discuter avec leur libraire, enfin, voyez-vous, avoir les mêmes opinions, savoir comment leur libraire réagissait vis-à-vis de ce livre qui était très original, fallait bien dire. Et alors, c'était d'ailleurs, je pense, une des raisons... qui est un peu que le club des libraires est tombé. C'est parce que les libraires n'y ont plus ensuite consacré tout l'effort nécessaire, voyez-vous.
Ensuite, les gens qui faisaient l'acquisition de ces livres, 400 livres, si vous pensez à quelqu'un qui a fait l'acquisition de tous les livres, il lui faut de la place.
Pierre Pain.
Donc, les choses se tassent. Ensuite, il y a, en effet, à cause de ça, nous n'avions plus, à un certain moment, 1500 ou 1300 demandes fermes à l'apparition d'un livre. Or, il en aurait fallu 1800 à 2000. Et ça, ce sont aussi les confrères qui n'ont peut-être pas joué le jeu à un certain moment, en faisant l'effort qui aurait été nécessaire pour que notre trésorerie, qui était la leur... puisse continuer à être à peu près équilibré. À partir du moment où vous avez un déséquilibre de trésorerie, à partir du moment où vous augmentez les stocks des livres qui sont publiés sans être vendus, ben vous êtes en difficulté financière. Voilà.
Alors, il y a eu d'autres clubs, hein. On parle du club, oui, mais il y en a eu beaucoup qui ont suivi, le club de livres de libraires.
Alors justement, oui, il y a eu Henri Desmarres, il y a eu un autre club de libraires qui s'appelait le Livre Club des libraires,
oui.
Dirigé par Gérard Minguet.
C'est ça, Minguet était chez Plon avant, c'était un vieux routier du livre aussi, oui, il avait... fait ce livre club du libraire, mais écoutez, je ne veux pas le critiquer, c'était un homme charmant et tout, mais il n'y avait pas l'originalité des autres. Voyez-vous, pour moi, les trois grands clubs, ça a été le club français du livre, le club du meilleur livre et le club des libraires. Voyez-vous, qui ont apporté. Les autres ont été un peu des suiveurs. Voyez-vous, Minguet avait fait une chose qui était plutôt classique. Voyez-vous, c'était plutôt le livre classique avec une reliure intéressante. Mais il y avait moins d'originalité, voyez-vous, que dans les autres. Il avait, je crois, ces 300 libraires, à peu près, qui étaient adhérents à son club. Il devait faire un tirage. Vous savez, les tirages étaient d'entre 3000, à peu près, autour, quelquefois un petit peu plus, sauf le Club français du livre, qui, au départ, a fait des tirages énormes, vous savez, faisait des 50 000, des 80 000, mais après, tous les clubs de libraires, voyez-vous, ont été limités à peu près dans les 3000, à peu près.
Et vous croyez que grâce à ce club, Bernard Guébrant, vous avez amené des personnes qui ne lisaient pas ou qui n'avaient pas de livres à lire et à... Est-ce que c'était un début aussi de ce club des libraires, c'est-à-dire un peu, peut-être pas une vocation pédagogique, mais en tous les cas, amener des personnes à la lecture?
Exactement, c'est une vocation pédagogique cela. Et c'est ce que nous faisions, mais nous n'étions pas les seuls, mais nous étions en même temps... les seuls à montrer deux principes qui ont été ceux de Faucheux. D'une part, la lisibilité. Pour que des livres soient lisibles, Faucheux l'a employé toujours un certain corps. Ils avaient une règle qui était de ne jamais dépasser des justifications trop longues qui forcent le lecteur à se cesser. Vous savez ce qu'on appelle la justification. Bon. Alors, il ne fallait pas que ce soit trop long pour que le lecteur puisse l'envisager, la lecture puisse se faire sans discontinuer.
La typographie aussi, la grosseur, j'imagine.
Le rapport entre la grosseur du caractère, son espacement avec son voisin et son interlignage. Donc, Faucheux avait établi des règles auxquelles il restait fidèle. Et ça ne se voit pas, mais ça a beaucoup influencé l'édition à cette époque. Et notamment l'édition du livre de poche. Alors je cherchais à vous montrer des revues que je vous fais.
Dans l'immédiate après-guerre, nous étions presque tous semblables, en ce sens que nous faisions exactement le même métier. Ce n'est qu'après, si vous voulez, que ça s'est coupé, disons, à partir de 1960, enfin, après, dans le fond, l'arrivée du Furet du Nord, qui a complètement cassé, on peut dire. D'ailleurs, Calin avait une petite librairie à Lille, d'ailleurs 60 mètres carrés, et il avait acheté un grand magasin. Tout simplement, 3000 mètres carrés, voyez-vous, ça changeait tout à fait la physionomie de la librairie. Son principe, c'était d'avoir pratiquement tout ce qui existait, si vous voulez, tous les livres existants, et sur 3000 mètres. Donc. Alors, à partir, je veux dire, de 59-70, le Furet du Nord a fait école. La plupart des grandes librairies de province, voyez-vous, ont jeté l'œil sur le Furet du Nord, se sont agrandies. Bon, je pense tout simplement à Bazin, par exemple, qui était à Dijon, qui avait une petite librairie et qui est passé lui aussi à 3000 mètres du jour au lendemain, en y ajoutant d'ailleurs d'autres commerces. Il avait ajouté le livre d'enfants, bien sûr, mais aussi tout le commerce qui... voisinait, on veut dire, autour de l'enfance, voyez-vous. C'était beaucoup développé, c'était un autre esprit, finalement. Le monde a tourné à ce moment-là.
Je passe tous les matins devant la vitrine à bouquins. Je passe sans détour et je viens chercher du papier bonheur en ces jours incertains. Je dis certes, ce papier ne vaut rien. Je vois bien que c'est bien.
En 1961, Paul Callens crée en effet à Lille une maison de la presse de 60 mètres carrés, ouverte de 7h à 22h. Le Furet du Nord s'agrandit à plusieurs reprises et propose un espace entièrement consacré aux livres de poche, un autre à la musique, organise des rencontres avec les écrivains, des ateliers de travaux manuels, des expositions ou un festival de BD en 1972. Au début des années 1980, l'enseigne commence à essaimer dans la région et ouvre 12 magasins répartis dans le Nord-Pas-de-Calais et l'Aisne. Parallèlement à ce nouveau type de librairie, la FNAC invente la grande surface culturelle en ouvrant sa première librairie à Paris-Montparnasse le 12 mars 1974. Merci à Bernard Garbrandt, Michel Chaffangeon, Henri Desmarres, Jean et Françoise Leguet et Pierre Pain. Merci aussi à Bénédicte Pelle. Archivina, Aurélie Marsay et Marie Jarros. Prise de son, Jacques Vincent, Éric Boisset et Alexandre Dang. Mixage, Jean-Richard Dufour. Le Club des libraires de France, 1953-1966, un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Véronique Lamandour.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 novembre 2008.
You